원, 투, 출! 파이어!
Cette année, le dernier dimanche de mars tombe le 1er avril et ce n'est pas un canular. Vous êtes bien sur Radio Primitive et c'est Hightime qui commence.
Your time, my time high. Your time, my time, who's really high? Your time high. My time high. Your time high. Who's really high? Who's really high? Who's really high?
I'm high!
Who's really high?
We're all high!
Who's really high? Who's really high? Your time high.
Pour commencer, voici une première partie du concert que les troupes de l'imaginaire ont donné lors du festival Sonic Protest à la médiathèque musicale de Paris.
Yeah.
Au cours du festival Sonic Protest, nous avons vu un super groupe, le Wild Classical Music Ensemble. Voici leur morceau, The Wind. Sur le plateau de Mediapart, François Bonnet échange avec Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté et André Bitton, animateur du CRPA, Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, et blogueur sur le club de Mediapart.
Bonsoir. Donc nommé en juillet 2014 contrôleur général des lieux de privation de liberté, vous êtes chargé de vérifier que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont bel et bien respectés. Vous avez beaucoup travaillé sur les hôpitaux, leurs services d'urgence et sur les hôpitaux psychiatriques. André Bitton, vous êtes un des animateurs du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Vous tenez également un blog sur Mediapart qui s'intitule « Compte de la folie ordinaire ». Et depuis des années, vous l'expliquez très bien dans votre blog, vous menez de grandes batailles juridiques, vous avez déposé plusieurs QPC, questions prioritaires de constitutionnalité, pour faire respecter le droit des malades. Adeline Hazan, vous venez de sonner l'alerte, en quelque sorte, sur ce qui se passe au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, et en particulier au service d'urgence générale, où vous avez découvert que des personnes relevant de la psychiatrie et ne pouvant être prises en charge par un hôpital psychiatrique étaient dans ces urgences générales du CHU de Saint-Étienne dans des conditions absolument épouvantables. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire le résultat de votre inspection ?
Absolument. Et il faut préciser que, comme vous l'avez dit, c'est un CHU, c'est-à-dire c'est un hôpital général au sein duquel il y a un service psychiatrie, et que ce que nous avons découvert au milieu d'une visite de contrôle ordinaire, hein, pour le coup, ça, on ne nous avait rien signalé, c'est que...
On est allé,
on fait 150 visites par an, dont beaucoup de visites d'établissements de santé mentale, d'hôpitaux psychiatriques, et donc nous y allions un peu par hasard dans le cadre du tour de rôle de nos visites. Et là, nous avons relevé quelque chose d'absolument inadmissible, c'est que les personnes qui devaient être hospitalisées en psychiatrie, dans le service psychiatrie du CHU, de façon d'ailleurs contrainte, mais aussi de façon libre, se retrouvaient pendant de 10 heures à 7 jours aux urgences générales, allongé sur un brancard, attaché par les mains et par les pieds, sans possibilité...
Attaché,
sans possibilité de se lever pour aller aux toilettes, avec ce qu'on appelle un urinal sur le brancard. Donc des conditions, mais totalement indignes. Et je veux préciser, même si les deux choses sont tout à fait inadmissibles, mais que c'est encore plus illégal pour des patients qui sont en soins libres. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un va de lui-même dans un hôpital parce que, par exemple, il fait une dépression nerveuse, il pense qu'il a besoin d'être soigné, et il se retrouve pendant 8 jours attaché sur un brancard. Donc ces mesures sont non seulement...
Vous parlez même de traitement dégradant et inhumain au sens de
l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Quand on parle de traitement inhumain et dégradant, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, nous avons utilisé à ce moment-là ce qui est dans notre éventail de mesures possibles, c'est-à-dire la procédure de recommandation en urgence. C'est-à-dire que nous n'attendons pas d'avoir fait le rapport complet sur l'établissement, parce que ça demande environ 10 mois. Et là, sans attendre, nous saisissons directement la ministre, en l'occurrence la ministre de la Santé, pour lui dire qu'il y a des choses absolument inadmissibles en termes de droits fondamentaux et que ça doit cesser immédiatement.
André Bitton, vous avez eu vent d'autres affaires de ce type ?
Oui, bien sûr, oui. Oui, en particulier dans les années 2000, félicitations pour le travail que vous avez mené, dont j'estime qu'il a été rendu opérationnel et efficace par deux biais. Tout d'abord, l'entrée du droit sur le terrain, puisque le droit n'entrait pas dans la psychiatrie jusqu'à le volet judiciaire de la loi du 5 juillet 2011. Le droit était aux portes, loi Esquirol de 1838. Et d'autre part, par le travail parlementaire du député Denis Robillard, qui a été au Parlement votre bras armé, je crois,
et qui
a mené un travail extraordinaire.
Très important.
Il a mené un travail très important, puisque la traçabilité de l'isolement en contention, il l'a introduit par amendement. Mmh. Alors, nous, on avait été alertés très tôt dans les années 2000 sur les pratiques d'isolement en contention sur le centre psychothérapeutique de l'Ain, sur une affaire qui a prêté lieu tout récemment à une condamnation... qui n'est pas frappé d'appel à dommages et intérêts de l'État, qui est là dans un dossier que je vous ai joint. C'était une affaire horrible. Des parents, c'était la mère de famille qui nous avait alertés. Et à l'époque, ce que je voulais faire, c'était orienter la ligne politique du groupe Information Asile, qui était spécialisé sur l'internement abusif, vers les droits des patients. Donc il m'arrivait d'accepter des demandes d'aide juridique de famille dans des cas épouvantables, si ces familles ne trouvaient pas d'écho de l'UNAFAM, ce qui était le cas. Et là, en l'espèce, la mère de famille était littéralement affolée parce qu'elle avait sa fille qui était catégorisée schizophrène, qui était internée en hospitalisation d'office au centre psychothérapeutique de l'Ain et qui subissait une maltraitance noire, isolement, contention systématique. Quand la famille protestait, on envoyait en unité pour malades difficiles à Montfavet en séjour séquentiel, où elle était là désincarcérée, libérée, elle pouvait circuler, ça allait mieux à l'UMD Montfavet, on l'a réincorporée au centre psychothérapeutique de l'Ain et là ça recommençait. D'ailleurs, cette affaire, on a visionné dans un documentaire de 2004 sur le pavillon femmes de l'UMD Montfavet. Il y a eu un documentaire télé dans le cas du tournant sécuritaire des années 2000 où les documentaristes ont filmé ce pavillon femmes et on voyait la jeune patiente à visage découvert, alors qu'elle est sous tutelle. On voyait une jeune femme blonde dont on se dit elle aurait pu peut-être évoluer favorablement, mener une vie ordinaire, un peu se rétablir. Et elle était à visage découvert, et la mère de famille était à visage flouté. Mmh. Et paf, la séquence repartait. D'accord. Et donc, finalement, cette affaire a prêté lieu à une saisine des juridictions, et il y a donc eu une condamnation. Mais le centre psychothérapeutique de l'Ain n'a pas été condamné dans cette affaire.
Alors, André Bitton, vous bataillez sur deux fronts. Le premier, d'abord, de dire la situation, de documenter la situation dramatique de la psychiatrie en France.
Oui.
Le deuxième front, c'est de dire il y a trop d'internements d'office.
Oui.
Est-ce que vous estimez également qu'il y a trop d'internements d'office ?
Ce que je peux constater, c'est qu'il y a, par rapport à il y a un certain nombre d'années, de plus en plus de placements d'hospitalisation sans consentement, qui est le nouveau nom de l'internement d'office, et qu'il y a à la fois plus d'hospitalisations sans consentement, et à l'intérieur de ces hospitalisations sans consentement, il y a plus de mesures d'isolement et de contention, qui sont elles-mêmes une contrainte dans une hospitalisation déjà contrainte. Et ça, justement, moi, depuis que j'exerce ces fonctions, j'essaye, en regardant, en discutant avec les professionnels, de comprendre pourquoi. Et on n'a pas véritablement d'explication suffisante. Certains parlent du manque d'effectifs, ça joue évidemment. Certains parlent des traitements qui sont plus légers et que donc il y a plus d'agitation de la part des patients. D'autres parlent de culture d'établissement, et ça c'est vrai qu'à pour l'isolement et la contention, c'est aussi souvent une culture d'établissement. En tout cas, c'est une réalité qu'il y a beaucoup plus d'hospitalisations sans consentement. Dans certains établissements dans lesquels nous allons, c'est souvent autour de 40 ou 50% qui sont hospitalisés sans leur consentement. C'est beaucoup, c'est trop.
André Bitton, comment vous expliquez
Il y a eu un tournant gestionnaire. Oui, il y a eu dans la psychiatrie publique un tournant gestionnaire. De toutes les façons, il y a une ligne politique constamment tenue de rationalisation des coûts par le ministère de la Santé. En gros, depuis le tournant de la rigueur sous Mitterrand en 83, où a été instauré le forfait journalier, et on a commencé à se dire qu'il y avait énormément de lits en psychiatrie. À la mi-temps des années 80, quand moi j'ai été interné en psychiatrie au CHS Péré-Vaucluse en Essonne, il y avait 120 000 lits. 120 000 lits de psychiatrie. On est à l'heure actuelle à 55 000 lits. Il y a donc une politique de rationalisation générale.
Il y a eu aussi une stratégie générale de soins qui était d'externaliser, de faire hors les murs.
Oui, mais alors ça a été raté. La France a raté toute une série de tournants et a raté toute une série de réformes. C'est que tout d'abord, la sectorisation qui a été voulue par les professionnels sur une optique militante, les anti-asilaires, les désaliénistes, le courant Lucien Bonnafé, a été récupéré dans une optique de pure et simple rationalisation et de quadrillage géographique du pays, le découpage du pays en secteurs psychiatriques, en espèce de découpage répressif, un peu de contrôle psychiatrique des populations. Et par ailleurs, les structures extra-hospitalières ont été sous-développées. Et elles ont été rapidement mises en péril.
Oui, centre d'accueil ouvert, centre de soins ouvert, toutes les structures.
Les centres d'accueil et de crise ont été sous-développés. Ça, c'était une prestation qui a été développée dans les années 90 et qui en valait la peine, à savoir que vous aviez dans la cité un lieu avec quelques lits-portes, des lits d'urgence, ouverts 24/24, avec permanence téléphonique. Moi, je l'ai utilisé dans les années 90 pour mes propres soins, ça a marché. C'était très opérationnel. Et donc, on pouvait y aller, on pouvait discuter, demander à être mis entre parenthèses 2-3 heures, Ces prestations qui ont été ouvertes sur Paris ont été mises en péril dans les années 2000 pour des raisons budgétaires. Là, on a été auditionné le 30 janvier par le groupe de travail sur les soins sans consentement à la DGOS, ouais. Où un des psychiatres nous a dit que son propre centre d'accueil et de crise à Nanterre avait été mis en péril au plan budgétaire parce que trop coûteux.
Il y a eu, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Bitton, il y a eu, dans les années 70-80, un mouvement très intéressant de ce qu'on appelle sectorisation de la psychiatrie, qui faisait en sorte que, justement, il y avait un parcours pour le patient avec beaucoup de structures à l'extérieur.
À l'extérieur.
Et ces structures, comme le dit M. Bitton, elles ont été peu à peu supprimées, et ça explique en partie pourquoi il y a de plus en plus d'hospitalisations sans consentement. C'est que là où, avant, on aurait... traiter le patient en amont, ouais. Alors que les troubles étaient moins développés, et bien comme ces structures existent moins ou n'existent plus, et bien parfois les patients sont en crise et il n'y a plus que l'hospitalisation sans consentement. D'accord. Et puis il y a aussi, sans rentrer dans des choses trop techniques, mais une hospitalisation qui a été créée récemment, il y a quelques années, qui est l'hospitalisation en péril imminent, qui, elle, a fait quand même beaucoup grimper le nombre d'hospitalisations, là où avant, il fallait qu'il y ait un tiers pour justement signer une hospitalisation.
D'accord. Bien. Adeline Azan, merci d'être venue pour cette émission de Mediapart. André Bitton, merci. J'aurais aimé vous donner plus longtemps la parole et je m'en excuse. Mais nos lecteurs peuvent lire votre blog qui est vraiment très intéressant, Compte de la folie ordinaire, où vous faites un état des lieux méticuleux de tous les débats judiciaires autour de ces questions.
Et maintenant, voici encore un bout de Troubles de l'imaginaire. Pour finir, lors de Sonic Protest, nous avons rencontré Glenn Marzin et sa cabane sonore. En voici un aperçu, suivi d'une impro live de Avrix. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris vendredi la disparition du héros de notre principauté du Groland. C'est la fin des haricots et de High Time. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, mangez sain, bouffez du vegan.
Me born and me grow in a New York City. Me come for teaching people love and unity. It's every type of man them we smoke sense. The young, the middle and the elderly. The rich man and the man we living in a poverty. Some them are belly full and some them are hungry. So when we get together in our community, we take a one draw for all our family. And pass it round the cipher 1, 2, 3 degrees. You know you got to bless that you want it done properly. The healing of the nation certainly. You light it and you pass it and you feel irie. Some them are follow me, some them are disagree. Nobody could ever take away my sense, CJ. Oh, says I fear Babylon. Tell them, say, I'm a two ganja man. No, we no fear Babylon. Tell them, say, we are two ganja man. Come on, oh, says I fear Babylon. Tell them, say, we are two ganja man. No, we no fear Babylon. Tell them, say, yeah. Take it down low, take it down low. What's up, y'all? We having a good time tonight. Everybody, if you love love, show your love and make some noise, y'all. Yeah! Yes, I. Y'all are gonna bring a brethren out. Good brethren right now. We're gonna bring a brethren out right now. For real. All the way from Trinidad. Make some noise for Hardicle Dan. Make some noise for Hardicle Dan. Hardicle Dan, where are they, man?
You! Yeah. Is it dancehall business? Is it nice to dance? Let's reach your arts culture all the way from Trinidad to the city cannabis cup. You know, say something you cannot miss when it comes down to this. This is what we're dancing, we tell them it's a people them are screaming and shouting there. What?
love where them a talk, say they really love this. Say you can't afford, say you can't afford to miss. Cannabis come pan of a rock down session. Everyone a come is a smoke all night long. Girl where them a talk is the wickedest one. Now me tell you about the man, cause me stand up on the stand. Now I come in on the dance, see me lyrical yacht. Come in on the dance, see me smoking down butt. See me feeling kinda high, see me feeling real hot. Now me have a chat and see me, oh! Red, red eyes, see the red, red beard. Enough of them a talk, see the wicked not scared. Think of Babylon, come, me no get up, me no run. True, I am a true Rastaman. Bring up on the mic, see me rock down session. This is what me cut, I see the kind of this fun. High time, yes, me have a tell everyone. Much of dancing.